Bienvenue dans Retouche et Terre, le podcast qui explore les trajectoires de celles et ceux qui ont fait le choix de quitter la ville pour s'installer en milieu rural. Cette série est réalisée par Village Magazine, Les Localos et le collectif La Traverse. Chaque épisode sera l'occasion d'un échange avec des personnes qui ont eu ce type de trajectoire et sur les manières dont cette intégration dans un nouveau territoire peut se faire d'une manière qui participe à sa transition écologique. Loin de considérer les territoires ruraux comme des cadres agréables mais inertes, nombreux sont les nouveaux arrivants qui souhaitent participer activement à l'amélioration de la résilience locale. Aujourd'hui, nous interrogeons trois personnes qui ont profité de leur installation à la campagne pour ouvrir un commerce en centre-bourg. Bonne écoute.
Bonsoir à toutes et tous. Nous nous retrouvons pour Retouche et Terre. Je suis Sylvie Le Calvez, directrice du magazine Village. Et il y a Jean-Yves Pinault, le directeur des Localos. Bonjour Jean-Yves.
Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir Sylvie. Alors Sylvie, on nous dit que le dernier lieu de vie de l'humanité serait ces métropoles, ces mégalopoles, ces villes-mondes, ces villes gagnantes de la mondialisation. Pourtant, ça nous semble aller peut-être un peu vite en besogne parce que toi comme moi, on est bien placé pour observer d'autres réalités et notamment ces citadins qui sont nombreux, on nous dit de plus en plus nombreux, à vouloir, quand ils le peuvent, aller s'installer dans d'autres lieux sur notre territoire, dans ce que l'on peut nommer des petites villes, des villages. Alors, qu'en est-il aujourd'hui de ces réalités, Sylvie ?
Effectivement, ce sont des réalités de plus en plus nombreuses. Déjà, beaucoup de communes, de villages, de chefs-lieux de canton, comme on les appelle, se mobilisent pour se dire mais finalement aujourd'hui mon centre-bourg, mon centre de village, il n'existe plus, il y a eu un étalement des grandes surfaces tout autour et donc beaucoup de villages tombés en désuétude. C'est en train de changer, il y a des politiques hein, bien sûr pour ça qui sont à l'œuvre, et puis les porteurs de projets, comme on les appelle, les citadins qui veulent s'installer, ne s'y trompent pas, ils viennent de plus en plus s'installer dans ces cœurs de villages, dans ces cœurs de bourgs, pour monter une activité, un commerce, une activité artisanale, un tiers-lieu même, et on va en avoir la preuve vivante ce soir avec trois témoignages de un peu tous les coins de France. On va aller au sud, à l'Est, en Normandie. Donc, je vous les présente très rapidement, mais je vais les laisser donner leur parcours, leur itinéraire, pourquoi ils en sont arrivés là, pourquoi ils se sont installés dans le village dans lequel ils sont. Il y a Peggy Mangin, hein, de l'épicerie Peggy, à Aix-l'Évêque, c'est dans la Marne. Véronique et Xavier Roch, du tiers-lieu L'Ours Brun, à l'île Jourdain, dans le Gers. Et puis Corinne Bell, du magasin de fleurs La Vie en Rose, à Orbec, dans le Calvados. Merci d'être avec nous ce soir, hein, à tous. Merci beaucoup.
Merci de nous accueillir.
On est ravis. Et donc là, vous êtes tous les trois installés, trois initiatives en tout cas, dans ces villages ruraux, qui renaissent, et on le voit avec la crise sanitaire hein, qui a eu lieu, de plus en plus de citoyens se disent « mais finalement, je peux refaire mes courses dans le centre du village, je n'ai pas forcément besoin tout le temps de prendre ma voiture. Est-ce qu'effectivement, c'est quelque chose qui monte, qui revient ? Quelle est l'ampleur du phénomène et comment on fait pour réussir une installation en centre-bourg ? C'est ce qu'on va voir ce soir. Alors, qui commence ? Peut-être Peggy sur son installation avec l'épicerie de Peggy à Aix-l'Évêque dans la Marne, de nous raconter son itinéraire.
Oui, Peggy, bonjour. Bonsoir. Alors voilà, je me suis installée dans la Marne il y a trois ans. Je suis originaire de Bar-le-Duc, donc j'ai quatre enfants. Donc, c'était un petit projet de rêve de petite fille, d'ouvrir un petit magasin. Et nous, à l'heure actuelle, nous sommes dans un tout petit village qui a plus de 300 habitants. Donc, il faut faire à peu près 10 km, voire plus, pour avoir quelque chose au niveau boulangerie, au niveau épicerie. Donc, voilà, c'était une occasion à faire avec monsieur le maire. Donc, refaire en neuf une vieille boulangerie pour refaire une épicerie.
Voilà. Ça fait combien de temps, là?
Ça fera un an le 10 décembre que je suis ouverte.
Oui. On viendra vous voir tout de suite là, pour que vous nous racontiez comment ça se passe, comment ça marche, comment ça va, quel soutien vous avez eu aussi hein, de la part notamment de la commune, puisque vous la citez. Alors, pour une veille pour le magasin de fleurs à Orbec, comment, toujours dans le commerce, hein, on ne va pas quitter le commerce tout de suite. Pareil, votre itinéraire, Corinne.
Alors, moi, c'est mon deuxième magasin à Orbec. Là, je suis installée depuis 5 ans et demi. Après, j'ai fermé le deuxième en 2006, le premier en 2006, parce qu'on était arrivé à 4 fleuristes. Alors, à Orbec, c'est quand même, c'est 2500 habitants à l'époque. Maintenant, c'est plus dans les 2000. Et maintenant, il faut 2 fleuristes à Orbec, mais pas plus. À l'époque où j'ai fermé en 2006, à 4 fleuristes, c'était pas possible. Et sinon, j'ai fait mes études à Paris en tant que, j'ai fait un CAP de fleuriste. J'ai pas toujours été dans la fleur. J'ai fait aussi, j'ai travaillé dans une clinique. Après, j'ai élevé mes enfants et j'étais installée en Normandie. Et là, j'ai voulu ouvrir un magasin, un premier magasin, parce que moi aussi, c'était mon rêve. Que j'aurais sûrement pas fait si j'étais restée en région parisienne, parce que c'est beaucoup trop dur. Mais là, ça me paraissait beaucoup plus facile à la campagne. Enfin, pour moi, c'est la campagne. Les gens n'aiment pas tellement qu'on dise ça. Pour eux, c'est une ville. Mais voilà, après mes enfants, j'ai eu envie de faire mon rêve, en fait, d'ouvrir une boutique et de faire ce que j'avais envie dans ma boutique. Malheureusement, au bout de 4 ans, j'étais obligée de fermer parce qu'on était trop nombreux comme fleuristes. Et après, j'ai fait des petits boulots. Et je suis revenue parce que finalement, sur les 4 fleuristes, il n'en restait plus qu'une. Et j'ai rouvert un magasin. On s'est retrouvés à 2 fleuristes. Et là, c'était très, très bien. Jusqu'à ce qu'il y ait un 3e fleuriste qui revienne. Enfin, c'est un peu compliqué. Mais je pense que dans les centres-bourgs où... il ne faut pas être trop nombreux dans la même spécialité, sinon on ne peut pas vivre, ce n'est pas possible.
Merci, on reviendra d'ailleurs sur les difficultés aussi que vous rencontrez, puis les atouts hein, de votre vie quotidienne dans ces bourgs ruraux, dans ces villages. Véronique et Xavier Rogou, vous avez ouvert un tiers-lieu. Alors, les tiers-lieux, c'est souvent un peu les nouvelles places de village, c'est des lieux où on fait des choses très très diverses, ça s'appelle l'ours brun. Il y a des ours là-bas à l'île Jourdain dans le Gers. Racontez-nous votre expérience et ce que vous faites.
Nous, alors, on a monté ce projet il y a plus de 3 ans maintenant, 3 ans et demi. En fait, avec la ferme conviction qu'il est très important de recréer dans les petites villes et dans les villages des vrais lieux de vie où les personnes puissent se retrouver autour d'un thé, d'un café, d'un programme culturel ou on a des salles de travail également où les personnes peuvent venir travailler en coworking. Voilà, on a été persuadés de ça il y a 3 ans et demi en disant que aujourd'hui il y avait beaucoup de personnes qui tombaient dans l'individualisme et qu'il était important de recréer justement l'ambiance des bistrots d'autrefois où les personnes pouvaient communiquer entre elles, que les personnes qui étaient seules puissent venir se dire voilà, je vais trouver une oreille qui va m'écouter aujourd'hui. Et voilà, la première idée c'était ça avec quand on a créé ce lieu. Aujourd'hui, au bout de 3 ans et demi, on peut dire que, à ce sujet, le pari est gagné, puisqu'on a énormément de personnes qui viennent et qui viennent à l'Ours Brun parce qu'elles s'y sentent rassurées, elles s'y sentent bien. On a beaucoup de personnes seules, d'âge divers, qui viennent parce que, justement, elles ont trouvé un endroit pour, où elles peuvent s'exprimer. Il y a des personnes qui nous disent, si on n'avait pas l'Ours Brun, on n'aurait personne à qui parler dans la journée. Donc pour nous c'était un point voilà, on est contente de ça, on se dit que le pari est réussi. Après voilà, ça a été quelque chose un projet qui a été un peu compliqué au démarrage parce qu'on n'avait pas forcément un objectif de restauration dans notre programme et qu'il s'est imposé à nous dans le sens où il y a beaucoup de personnes qui nous ont dit mais pourquoi vous faites pas des repas. Du coup, on s'est lancé dans la restauration et ça, voilà, mon mari aujourd'hui consacre énormément de temps à la restauration, sachant qu'au départ, ce n'était pas du tout son métier, que ce n'était pas le mien non plus. Et voilà, donc ça a été un peu, du coup, quelque chose qui a été dur pour nous au démarrage parce qu'on ne s'investit pas restaurateur du jour au lendemain quand on n'en a pas l'expérience. Mais aujourd'hui, voilà, on a trouvé notre rythme, on a également un cuisinier qui est aujourd'hui au chômage partiel dû au fait que notre lieu a été fermé pour raison administrative, en raison de la Covid. Mais du coup, mon mari travaille tous les jours, Xavier, tous les jours en cuisine pour pouvoir assurer quand même la restauration à emporter, qui est un peu le gage de notre survie aujourd'hui.
Et qui, voilà. permet aussi de garder le lien social qui nous est cher à l'heure actuelle.
Vous répondez aux besoins des habitants de votre village, en fait. Vous êtes adapté à la demande des habitants. Il y a un besoin là, il faut absolument le rendre ce service pour continuer de jouer notre rôle de lien social dans le village. Jean-Yves, en écoutant ces premiers parcours, là, ces histoires de vie, peut-être une réflexion, une réaction par rapport à ce que vous voyez en sillonnant le pays.
Alors, de façon très, très humble et très rapide, moi, ce que j'entends dans ces trois parcours, comme tu le dis, Sylvie, c'est d'abord des projets de vie, en fait. On a le rêve d'ouvrir un magasin. On a le souhait d'avoir du sens, en fait, de trouver du sens à ses métiers. Et puis, ce qu'on a entendu aussi, c'est une capacité, en fait, à être souple et à s'adapter. Et on est bien là dans ces trajectoires de projets professionnels, mais qui s'adaptent à la fois, qui s'adaptent au projet de vie, et puis qui s'adaptent au contexte très, très local, localisé, qui n'est pas du tout le même selon là où on est.
On voit bien entre un bourg de 2500 habitants comme Orbec ou d'un petit village de 300 habitants, où tout à l'heure, effectivement, on avait Corinne qui nous disait « quand on commence à être 3-4 fleuristes, c'est trop, même dans un bourg de 2500 », ou qu'on dit « il faut qu'on réponde aux besoins des habitants de l'île Jourdain ». On voit bien qu'effectivement, il y a une adaptation nécessaire, mais qu'il y a aussi des champs du possible, parce que visiblement, tout à l'heure, on entendait Corinne qui disait « ouvrir mon magasin de fleurs à Paris, je ne le sentais pas du tout », alors que en milieu rural, en tout cas, c'est possible. Mais ce qui est bien, c'est quand on est aussi un peu accompagné par une volonté municipale. Puis Guy, c'est ce qui vous est arrivé. Vous avez une collaboration intéressante, je crois, avec la mairie, que vous pouvez nous expliquer.
Oui, je suis avec monsieur le maire qui m'a beaucoup aidée. Alors, monsieur le maire, il m'a refait à neuf une boulangerie qui était abandonnée depuis 4 ans. Donc, a tout remis aux normes, tout ce qui est au niveau pour les handicapés, isolement et tout ça. Donc, j'ai eu vraiment bien la mairie vraiment avec moi, quoi, à mes côtés, vraiment pour me soutenir.
Pour vous, c'était important dans la réussite de votre expérience? Ça a compté beaucoup? Et qu'est-ce qui a compté dans le fait qu'aujourd'hui, votre projet fonctionne? Qu'est-ce qui a été déterminant?
Ce qui a été déterminant, c'est que qu'on est soutenu quand même derrière pour un projet. Comme on dit, ça faisait 3 ans qu'on n'avait rien. Donc, 3 ans, il faut refaire une clientèle. Donc, c'est bien d'être soutenu par la mairie, qui est vraiment là pour se soutenir. Tout ce qui est, comment je pourrais vous dire,
Vous avez un loyer aussi. Vous avez un loyer aussi avec la mairie qui est accessible, en fait.
Oui, donc la mairie a été très gentille, nous a fait loyer gratuit pendant 6 mois. Et donc, au bout de 6 mois seulement, j'ai payé le loyer.
Qui en plus a un coût très, très modéré, je crois.
Très modéré, oui. C'est vraiment, ils sont vraiment là pour vraiment qu'on ait réussi. Ils sont à fond avec nous.
J'ai une question, Peggy.
Oui.
Par rapport aux habitants en fait, du village, est-ce qu'ils jouent le jeu? Est-ce que vous entretenez des relations étroites? Comment ça se passe avec eux?
Ils jouent le jeu et puis on a beaucoup de relations, comment je vous pourrais dire, plus infinitées avec certaines personnes que d'autres, surtout les petites grand-mères qui racontent beaucoup leur petite vie et tout. Et on rend beaucoup service quand même, malgré que je ne fais pas des livraisons, il suffit de me demander quelque chose pour les petits, ceux qui ne savent pas se déplacer, je vais leur emporter. Donc, si on crée vraiment des liens très forts.
D'accord. Et alors, vous avez l'impression qu'il y a encore des difficultés. C'est quoi votre principale difficulté aujourd'hui dans votre activité dans ce village? S'il y en a, je ne sais pas, peut-être finalement tout va bien.
Non, tout va bien. Difficulté, je ne vois pas. Non. Non, du tout. Non, ça joue vraiment le jeu. Si, ils sont super. Les gens sont très super, même les alentours.
Moi, j'ai une question, Peggy, encore.
Oui.
Par rapport à ce que vous proposez en fait dans l'épicerie, est-ce que vous proposez des produits du coin? Est-ce que
je fais beaucoup des produits locaux.
D'accord. Alors c'est quoi à peu près? Comment ça se passe? Qui c'est qui vous a fait rencontrer finalement ces producteurs? Est-ce que vous avez été accompagné pour ce qu'on appelle votre modèle économique? Comment ça s'est passé?
Alors, tu vois, quand j'ai ouvert l'épicerie, moi, je voulais pas faire une épicerie comme tout le monde. Donc, je voulais faire une épicerie pour travailler les producteurs locaux, tout ce qui est petits producteurs du coin. Parce que, comme je dis, ils galèrent assez comme ça pour travailler. Donc, pourquoi pas les faire travailler et puis manger de la qualité, quoi. Donc, le tout premier producteur local qui est venu me voir, c'est tout seul, hein. Avant que j'ouvre la semaine, juste avant que j'ouvre, de me montrer ses produits. Et de là, ça venait nul par la suite. Et puis après un, après deux, là, je suis actuelle à 13 producteurs locaux.
Ah oui. Mmh. Et vous travaillez quoi comme type de produit?
Alors, tout ce qui est produits alimentaires. Donc, vous avez les yaourts, fromage, miel, jus de pomme, jus de raisin. J'ai la viande de cochon locale, la viande de bœuf. Qu'est-ce que j'ai? La bière locale. J'en ai pas mal maraîché. Donc voilà.
Très bien. Et donc effectivement, ça fait quand même une production relativement variée. Corinne, vous, dans votre magasin de fleurs, quel lien vous entretenez avec la population? Comment ça se passe? Est-ce que là, je sais qu'Orbec, il y a des gros travaux justement pour revitaliser le centre-bourg avec une volonté d'élargir les trottoirs, de redonner plus de place aussi pour les terrasses de restaurants, de faire un bourg essentiellement piétonnier avec des stationnements à l'extérieur. Comment vous voyez justement l'investissement de la commune dans cette politique de revitalisation de centre-bourg?
Ah ben, moi, je trouve ça super. C'est vraiment joli. Et on a envie de se promener à Orbec. Et on voit bien les gens, depuis que ça a fait notre coin est fini, les gens se promènent, ils rentrent des fois dans le magasin et ils regardent et on peut rentrer pour visiter. Et oui, pourquoi pas, bien sûr. Mais avant, ce n'était pas tout à fait ça. Mais il y a quand même un gros problème, c'est que les gens ont beaucoup de mal à marcher. Maintenant, les trottoirs n'étaient peut-être pas terribles et puis les routes n'étaient pas terribles non plus. Là, ils ont instauré vraiment des endroits où on peut bien marcher, où c'est joli parce qu'ils ont mis des plantes partout. Et les gens, du coup, ils se promènent et ils ont envie de regarder. Et c'est le seul moyen de vraiment voir une ville, c'est de marcher. Quand on la traverse en voiture, on ne voit rien. Même à l'endroit où je suis, il y a beaucoup de gens qui ne m'avaient même pas vu parce qu'à l'époque, il y avait un double sens et à l'endroit où j'étais, c'était un endroit où ils devaient attendre pour savoir s'ils pouvaient passer ou pas. Et une fois qu'on a instauré cet unique sens, là, les gens, ils ont commencé à me voir parce que c'était très bizarre. Mais moi, je trouve que d'abord, le fait que c'est très joli et qu'on remet en valeur une ville qui était, il y a quelques années, vraiment mal. Il y a 5 ans, elle était, même encore maintenant à Lisieux, les gens disent « Ah bon, Orbec, mais c'est mort et tout ». Et je dis « Non, c'est en train de revivre depuis plusieurs années ». Et le fait d'embellir en plus la ville, c'est sûr que ça apporte un plus. C'est vraiment joli maintenant et ça met tout en valeur et ça va continuer quand les terrasses seront bien.
C'est vraiment ouvertes et qu'on pourra profiter de se retrouver en plus au centre du village pour aller profiter des terrasses. Donc c'est effectivement un choix qui est important pour des commerçants. Ça peut générer un chiffre d'affaires supplémentaire, ceux qui sont dans le bourg. Et puis il y a sûrement une plus grande joie de vivre quand même, de voir que c'est joli autour de soi.
Oui, bien sûr. Tout le monde a envie de voir cette ville ressortir au grand jour, parce que il y a des très beaux bâtiments, c'est très vieux, très ancien. On peut se balader dans les petites rues. Il y a des très très beaux bâtiments avec encorbellement et des colombages super qui datent du 15e, 16e siècle. Des très très beaux bâtiments.
Merci pour ce témoignage, ça fait envie et c'est vrai que c'est bien de voir que des villages comme celui-là ou des petits chefs de canton, des petits cœurs de bourg revivent ainsi. Véronique et Xavier, vous êtes dans le centre du village aussi? Comment ça se passe pour vous?
Est-ce que vous avez été accompagnée?
Pourquoi vous avez fait ce choix de ce local-là et est-ce que vous avez été accompagnée, aidée dans votre démarche d'installation? Comment ça se passe?
Alors, nous, on est vraiment en cœur de ville, puisqu'on est, on est sur la place Gambetta, qui est la place principale de l'Isjourdain. En fait, il y a deux places, mais celle-ci est une des places principales où il y a pas mal de commerces. On n'a pas vraiment eu d'aide, sinon que la mairie, au moment où nous, on a investi les lieux, qui est une vieille bâtisse du 18e, il y a eu un certain nombre de travaux que l'on a dû faire pour adapter le lieu, le transformer en bar. En café culturel, notamment justement pour la mise aux normes, pour l'accueil des personnes à mobilité réduite, pour créer vraiment un bar, deux salles qui servaient, il y a une grande bibliothèque où on peut prendre le thé, le café, et une autre salle de restaurant. Et par contre, la mairie nous a aidés pour que le permis de construire, on puisse obtenir le permis de construire rapidement. Parce qu'on s'était fixé une date d'ouverture, on a acquis le lieu au printemps 2017 et on s'était fixé une date d'ouverture au 7 juillet 2017, donc 2 mois après, trois mois après. Et c'est vrai que là, la mairie nous a poussé les choses pour que le permis de construire soit autorisé, donné le plus rapidement possible. Après, nous, les aides sont plutôt venues de la région, puisqu'on a été reconnu assez vite comme tiers-lieu, donc lieu pouvant accueillir des personnes pour travailler dans la journée. Et la région, comme beaucoup de régions actuellement, ont tout intérêt à ce que des lieux comme ça se développent pour permettre aux personnes de rester dans leur région pour travailler, éviter qu'elles viennent en l'occurrence à Toulouse pour désengorger les gros axes routiers. Et enfin, voilà, c'était une volonté. Donc la région est venue nous voir assez rapidement pour savoir quels étaient nos besoins. Notamment en termes d'installation, d'aménagement des locaux. Et voir quel financement, les choses qu'ils pouvaient financer.
Donc, vous avez l'impression que ces centres-bourgs, celui où vous êtes installé, revit aussi actuellement, qu'il y a une volonté de réinvestir les centres-bourgs, puisqu'on a tellement vu les pourtours se développer avec non seulement les grandes surfaces, mais même après parfois des bâtiments communaux qui pouvaient être en périphérie et des lotissements, bien sûr. Est-ce que vous avez l'impression que ça change actuellement et que depuis la crise sanitaire, ça change encore plus ou pas?
Nous, on est dans un contexte un peu différent parce que bon, l'Isjourdain est situé à l'ouest de Toulouse, côté Airbus, et donc il y a un gros développement, c'est-à-dire que la ville de l'Isjourdain a gagné à peu près 3000 habitants sur 4 ou 5 ans, donc il y a un gros développement. Alors c'est vrai que du coup, il existe des zones, je dirais, où il y a des supermarchés, etc., mais on est en phase transitoire, c'est-à-dire que il y a une partie des commerces qui se situe à l'extérieur du village, enfin, ou de la ville, on peut dire maintenant, et après il y a le centre, et c'est vrai que l'idée c'est de pouvoir toujours garder cette activité au centre, mais on se retrouve confronté souvent par des problématiques de parking, de stationnement, qui rendent les choses difficiles, et puis parfois aussi l'absence de pistes cyclables ou ce genre de choses qui permettraient aux gens qui habitent en périphérie de la ville de pouvoir se déplacer en vélo plus facilement.
Très bien. Jean-Yves, ça évoque des réactions quand on entend ces difficultés, mais aussi cette espèce de nouvelle vie hein, dans les villages. On a des raisons d'être optimistes ou il y a encore des vents contraires?
Pour rester optimiste, ça sert à rien d'être pessimiste. Hein. Voilà, non, mais enfin, moi, ce que j'entends et ce qui me donne du baume au cœur, c'est cette conscientisation, on va dire, cette prise de conscience que ces petites villes ne sont pas des satellites, ne sont pas des territoires supplétifs aux mégapoles, aux métropoles, et que quand on décide en fait de recréer de la vie, quand on décide en fait de rendre nos lieux de vie habités et habitables, ça fonctionne. On l'entend dans les trois témoignages. Alors après, moi, il me semble que, sans être solennel, mais au regard en fait des enjeux, des crises que l'on subit et les uns et les autres, je ne parle pas que de cette crise sanitaire, hein, mais je parle de la question de l'écologie, je parle de la question de la biodiversité, je parle de la question tout simplement de ce qu'on peut appeler la transition. Eh bien, oui, on a à travers ces trois exemples, en tout cas, une démonstration que c'est cette manière d'habiter le territoire, que ce soit petit village ou que ce soit petite ville, eh bien, c'est quelque chose qui fonctionne et que c'est quelque chose, à mon avis, qui est prometteur. J'entends aussi qu'il y a une nécessité peut-être de revoir comment on peut réhabiliter les centres-bourgs avec peut-être une autre manière de prendre ces questions d'urbanisme, avec peut-être une autre manière de refaire commerce, avec peut-être d'autres manières de faire modèle économique en lien justement avec ces contraintes, en lien direct avec ces enjeux. J'entends, moi, en fait, un urbanisme qui soit en capacité d'être culturel, de revaloriser, d'avoir une entrée esthétique pour donner le goût aux gens. Ça a été très fort dans le témoignage de Corinne, de redécouvrir leur ville, de redécouvrir le patrimoine, l'histoire. On voit bien aussi également au niveau du témoignage de à la fois de Xavier, Véronique et Peggy, que la question des modes de vie, elle est au centre de leur activité. On voit bien qu'il y a là quelque chose qui est en train de naître, qui est en train d'émerger et qui n'est pas rien. Les fonctions, en fait, sans être trop savant, mais les fonctions de ces petites villes et villages sont au centre, en fait, des enjeux. Et notamment la première, qui est celle de la fonction de pouvoir habiter, la fonction résidentielle. Mais on voit très bien que si cette fonction résidentielle, on ne la travaille pas avec la fonction productive, avec la fonction récréative, avec la fonction culturelle, avec la fonction administrative, ben ça ne fonctionne pas. C'est peut-être pour ça aussi qu'aujourd'hui, on est face à des enjeux très forts en matière d'aménagement du territoire, d'aménagement des lieux de vie.
Merci Jean-Yves pour cette analyse suite à nos témoignages. Des conseils que vous donneriez tous les trois, des conseils de bon sens, de par votre vécu, pour ceux qui souhaitent franchir le pas et s'installer avec un commerce, une activité artisanale, un tiers-lieu dans une petite ville, dans un village aujourd'hui. Qu'est-ce que vous auriez envie de leur dire, de leur souffler, Peggy?
Il faut y croire, quoi. Il faut être vraiment à fond. Croire et puis rendre les gens heureux, leur sourire et tout, les yeux pétillants, dire heureusement que tu étais là, heureusement que tu es ici, ça donne du bon cœur. Il faut vraiment, il ne faut pas lâcher. C'est du travail, ah oui, même si c'est du boulot, il ne faut pas lâcher. Ça fait plaisir.
Merci pour ce mot effectivement optimiste, Corinne.
Oui, il faut s'accrocher, c'est sûr. Il faut innover, il faut essayer d'être. Alors déjà, il faut essayer de pas toujours dire qu'on vient de la région parisienne. Il vaut mieux essayer de le cacher, ça c'est bien aussi, parce que voilà, quand on est une pièce rapportée, on reste une pièce rapportée à vie. Donc il vaut mieux pas trop se vanter qu'on vient de la région parisienne. Ça c'est un bon truc. Et puis bon, être voilà, faire son boulot, mais être.
Faut de l'humilité, quoi. Il faut de l'humilité, donc on peut arriver à dire.
Il faut beaucoup d'humilité, ça c'est vrai, il faut beaucoup d'humilité, il faut rester proche des gens, comme si on avait habité là, mais c'est pas tout à fait ça, mais bon. Et puis bon, être humble même dans sa création. Moi, j'essaye toujours de faire des petits prix d'être créative. Et d'ailleurs, c'est comme ça que j'ai fait fonctionner mon premier magasin. J'ai été la seule à faire des compositions florales qu'on pouvait acheter tout au cours de l'année, de toute la semaine. Et les deux autres fleuristes qui étaient là ne le faisaient pas. Et c'est comme ça que je me suis démarquée et que j'ai pu réussir à faire mon premier magasin. Maintenant, ça marche toujours. Et quand je suis revenue, c'était génial parce que les gens étaient très contents de me revoir. C'était vraiment, vraiment génial. Ouais.
Corinne, est-ce que c'est absolument impossible, idiot, farfelu, de penser qu'aujourd'hui, les magasins de fleurs peuvent aussi travailler, tenter de travailler avec des producteurs locaux, où on reste quand même dans un...
On a quelques locaux, mais ils vendent leurs marchandises chez nos grossistes. Mais on a des locaux quand même. Et puis moi, je travaille avec une serre qui est locale, et c'est surtout pour des plantes, elle. Et ouais, j'aime bien aller chez eux pour les faire travailler. Toutes les chrysanthèmes, je les cherche dans le champ, je les arrache moi-même, je les sélectionne. Et c'est un local, oui, oui. Et les plantes, j'essaye de les faire travailler au maximum. Ouais.
Merci Xavier et Véronique à conseil pour ceux qui veulent se lancer dans une activité, surtout là très composite, mixte, où c'est dur, il faut faire à la fois la cuisine, accueillir pour l'espace de travail partagé. Qu'est-ce que vous pourriez dire à ceux qui veulent franchir le pas?
Moi, je reprendrai ce qu'ont dit un peu Peggy et Corinne, un mélange, c'est-à-dire qu'effectivement, il faut rien lâcher, c'est-à-dire que quand on lance des projets comme ça, nous, on l'avait pas prévu, mais ils vont s'y retrouver à certaines périodes à travailler chacun 85 heures par semaine. Mais voilà, il faut y croire, il faut pas lâcher, parce qu'effectivement, il y a les sourires, il y a les personnes qui viennent nous voir, qui nous disent heureusement que vous êtes là. S'il n'y avait pas vous à l'île Jourdain, vraiment, ça ne serait pas du tout la même chose. Donc ça, pour nous, c'est super important. C'est effectivement savoir être agile. C'est-à-dire qu'en fonction des besoins, dans les difficultés qu'on a rencontrées, on a été aussi beaucoup à l'écoute de ce que les gens nous demandaient, ce dont ils avaient vraiment besoin, et bien savoir se remettre en question. C'est vrai que la restauration, si on ne l'avait pas proposée, je pense qu'aujourd'hui, on n'en serait pas au même endroit. Et puis, pas se laisser… Alors nous, il y a un point qui est important aussi, c'est effectivement savoir se faire accepter quand on n'est pas du village. C'est quelque chose qui est encore une difficulté aujourd'hui, surtout dans des régions aussi marquées que le Gers. Ne pas appartenir à la région, c'est très, très difficile de se faire accepter. Mais après,
comment vous avez fait là, face à cette difficulté? On parlait d'humilité tout à l'heure. Quel autre conseil vous donneriez pour arriver à se faire accepter? C'est de rendre des services, c'est de répondre aux besoins, c'est de faire ses preuves.
Faut savoir faire le dos rond, laisser passer les remarques, les réflexions, parfois les méchancetés. Que l'être humain est capable de faire par mécanisme de défense, ni plus ni moins, parce que ils défendent leur territoire quelque part. Donc il faut laisser passer ça et puis ne se jamais se décourager. Nous, on a la chance d'être deux. C'est vrai que quand il y en a un qui était au fond du trou, l'autre le tirait et vice versa. Ça a été important pour nous. On a passé des moments difficile où on a failli perdre la boutique mais on était deux, on s'est toujours et puis après, c'est comme disait Véro, c'est que on a répondu à la demande, même si parfois cette demande, elle n'était pas celle qu'on avait prévue. Donc on s'est aménagé, on s'est débrouillé, c'est beaucoup de sacrifices. Bon, après, il faut pas croire que monter une telle structure, on va gagner de l'argent. Je pense qu'il faut être réaliste. C'est des structures où, en fait, on y gagne en humanité, pas forcément en monnaie, en richesse financière. Moi et Véro, on a 50 ans passés, on a eu chacun notre activité. Moi, je continue encore mon activité et Véro aussi, parce que financièrement, on veut vraiment asseoir les choses. Mais c'est un projet de fin de vie, quoi, professionnel. Bon,
moi, j'avais peut-être j'avais peut-être une petite question et puis peut-être une observation, c'est-à-dire que Alors déjà, une première réaction, c'est-à-dire que en fait, quand vous dites les gens défendent leur territoire, moi je connais plein de gens aujourd'hui qui, pour défendre leur territoire, souhaitent accueillir des jeunes, des moins jeunes, des gens comme vous tous, hein, c'est-à-dire en fait des porteurs de projets, comme on dit, qui sont capables d'amener de la vie, capables de valoriser les produits locaux, capables de rendre service, capables de faciliter ce lien social. Donc heureusement, il y a de plus en plus de territoires qui s'ouvrent, même si c'est pas facile et même si effectivement, quelquefois, de façon en fait contre-intuitive, les gens qui pensent que les porteurs de projets qui arrivent risquent de leur faire concurrence, on s'aperçoit que non. Au contraire, ça renforce un système économique et ça, c'est un peu encore un peu compliqué à comprendre. Par contre, moi, j'ai une question, c'est une question et à la fois une remarque. Mais je trouve que finalement, dans les belles histoires que l'on peut voir ici et là, et y compris en termes de commerce, y compris en termes d'artisanat, il y a cette idée en fait de sortir de la concurrence pour rentrer dans la coopération, dans des relations que certains peuvent dire gagnant-gagnant, même si je trouve que cette expression n'est pas très jolie. Et donc, pour les villages, pour les petites villes, coopérer aussi avec le territoire, avec ce qui se passe ailleurs que dans ces 30 ou 40 mètres carrés dans son petit périmètre, ça peut être assez intéressant. Et donc, le Gers, je passerai vous voir d'ailleurs, parce que j'y vais souvent, et surtout dans le pays des ports de Gascogne, où il y a des choses assez remarquables, hein, qui se font pas très loin de l'île Jourdain. Je pense à la librairie Tartinerie à Saran, je pense à la photographie. Il y a là vraiment, en termes de culture, hein, et d'intérêt, peut-être quelque chose où là, je sens que vous avez affaire, et peut-être que vous faites déjà d'ailleurs. Hein. Mais cette idée de coopération, elle me semble être importante à noter pour les auditeurs qui nous écoutent, et puis pour une autre manière peut-être d'appréhender notre manière de faire commerce. Hein.
Oui, merci. Tout à fait. Mais d'ailleurs, on est en train de mettre en place des choses au niveau touristique pour prévoir des parcours qui permettent justement d'aller voir tous ces lieux culturels. Et puis, on fait travailler un peu comme Peggy des producteurs locaux, des producteurs de bière, des producteurs de thé, des producteurs de plats typiques gascons. On essaie aussi, par le biais de l'Ours Brun, de faire connaître des jeunes, notamment, qui se lancent sur le territoire et qui ont besoin d'avoir une vitrine pour se faire connaître.
Merci. Je propose qu'on en reste là pour ce soir sur ces cœurs de bourg, cœurs de ville. Le temps est écoulé. Je pense qu'en collaboration, vous êtes tous d'accord. Je sais aussi que Corinne travaille aussi en lien avec la mairie, en lien avec l'Union des commerçants. Et effectivement, le réseau, quand on est en local, c'est important. On n'est pas effectivement dans un système de concurrence comme on peut l'être souvent dans les villes ou dans les grandes villes ou dans les métropoles. Et l'énergie qu'on met, elle est plutôt collective. Merci beaucoup pour cette belle soirée et votre témoignage vivant, souriant, et puis bonne poursuite malgré des moments particulièrement difficiles en ce moment, mais je vois que vous gardez le moral, continuez, et puis à très bientôt, on ira vous voir. Merci beaucoup.
On espère que ces témoignages vous ont plu et vous ont inspiré. Vous trouverez plus d'infos sur les commerces cités en description de l'épisode. Pour approfondir le sujet, vous pouvez également consulter le dossier qui lui est consacré dans le dernier numéro de Village Magazine. Le prochain numéro, qui sortira en mars prochain, portera sur les personnes arrivant en milieu rural dans le cadre d'une installation agricole. À bientôt !